Les années-lumière, édition du 17 janvier 2010. Les scientifiques de l'année de Radio-Canada ont été choisis cette semaine. Ils ont contribué à montrer comment des expériences de vie peuvent altérer le fonctionnement de nos gènes. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette édition, elle ne ressemble vraiment pas aux éditions habituelles, en ce sens qu'elle est en deux volets. Le premier volet, c'est la première heure, celle scientifique de l'année de Radio-Canada, donc la cérémonie de remise du prix et l'interview que nos scientifiques de l'année nous ont accordé pour expliquer leurs travaux. Et le deuxième volet, qui occupera toute notre deuxième heure. Il est consacré, vous le comprendrez, à Haïti, au drame haïtien, mais vu avec l'œil de la science et de la recherche. Et c'est Sophie-André Blondin et Chantal Srivastava qui ont préparé cette deuxième heure. Alors, Sophie-André.
Sous terre, que s'est-il passé lors du séisme sur terre? Premier regard sur les édifices qui ont résisté, ceux qui se sont écroulés, pourquoi et surtout comment améliorer la qualité de la construction.
Et vous, Chantal?
Je vous parlerai de la santé des populations et aussi de ce qui les rend vulnérables face aux désastres. Également du difficile défi qui est celui de prédire les séismes, un beau casse-tête pour les scientifiques.
Tout ça donc en deuxième heure avec des scientifiques de premier plan. Mais pour commencer donc, les scientifiques de l'année de Radio-Canada. Ça s'est passé mardi matin à la Maison de Radio-Canada à Montréal pour la 23e année consécutive. Nous avons remis le prix du scientifique de l'année de Radio-Canada, un prix qui vise à honorer une personnalité ou une équipe qui, au cours de l'année écoulée, s'est illustrée par une découverte, une publication ou une réalisation remarquable. Ce prix, il est double. Là où les personnes honorées reçoivent une jolie plaque, mais surtout, elles donnent quelque chose. Elles donnent une interview que nous enregistrons en public et que vous entendrez dans quelques instants. Cette année, donc, le prix est allé à Michael Meany et Gustavo Turecki. Ils sont professeurs au département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheurs à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas à Montréal. Michael Meany dirige le programme de recherche sur le comportement, les gènes et l'environnement. Gustavo Turecki dirige, lui, le réseau québécois de recherche sur le suicide. Et ce qui leur a valu leur distinction, c'est, et je cite, « leur contribution à la découverte des effets épigénétiques de la maltraitance infantile sur le cerveau humain ». On expliquera tout ça dans un instant. Ces effets se traduisent par des problèmes de santé mentale, par des risques accrus de suicide plus tard dans la vie. Et à noter qu'ils ont effectué ces travaux en étroite collaboration avec leur collègue Moshe Jif, titulaire d'une chaire James McGill au département de pharmacologie et thérapeutique de l'Université McGill. Participait entre autres à la cérémonie de remise du prix le directeur général de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, M. Jacques Endlis.
C'est un grand honneur pour nous d'être ici aujourd'hui et ce sentiment de fierté est partagé par Mme Heather Monroe Bloom, rectrice de l'Université McGill, et par M. Richard Levin, doyen de la faculté de médecine de McGill. La santé mentale est depuis trop longtemps le parent pauvre des investissements en santé au Québec et au Canada. Lorsqu'on sait qu'une personne sur cinq souffrira dans sa vie de problèmes de santé mentale, il est étonnant que seulement 6% du budget du ministère de la Santé soit accordé à la santé mentale, comparativement à 33% pour la santé physique. Chaque année, des millions de Canadiens sont confrontés par des maladies mentales, la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, les troubles alimentaires, les troubles d'alimentation et la maladie d'Alzheimer. Le coût engendré par la maladie mentale est immense. Sans parler du fardeau émotif pour les patients et leurs familles, la perte de productivité causée par la maladie mentale est de 18 milliards par année au Canada, qui correspond à presque 5 milliards pour le Québec. Ces chiffres démontrent l'urgence d'accorder à la santé mentale la juste part qui lui revient, qu'il s'agisse de l'argent, d'attention populaire et de découvertes médiatiques.
Jacques Endlis, directeur général du Douglas. Participait également à la cérémonie le directeur général de l'information de Radio-Canada, Alain Saunier.
C'est une façon pour nous de marquer l'importance de la recherche, l'importance de la science, l'importance du journalisme scientifique ici même à Radio-Canada. Et ce n'est pas pour rien qu'on honore vos collègues aujourd'hui, c'est parce qu'on croit fermement qu'il faut mettre en lumière ce qu'il se fait dans le domaine de la recherche. C'est la raison pour laquelle cette tradition-là d'honorer les scientifiques de l'année, il est important pour nous de la poursuivre année après année parce qu'on découvre toujours de nouveaux experts, de nouvelles recherches qui se font dans tous les domaines, dans tous les horizons.
C'était Alain Saunier, directeur de l'information de Radio-Canada. Et après les discours de remerciement, venait donc la partie interview de l'événement. Bonjour Michael Mini, bonjour.
Bonjour Yannick.
Bonjour Gustavo Turecki.
Bonjour.
Alors, nous vous avons choisi scientifique de l'année de Radio-Canada pour votre découverte avec vos collègues, parce que ça ne se fait pas tout seul des recherches comme ça, de mécanismes biologiques qui expliquent comment des expériences de vie chez l'enfant peuvent modifier l'expression de certains gènes dans le cerveau humain, dans le cerveau des adultes, et plus précisément, comment ces changements biologiques peuvent augmenter le risque de suicide plus tard dans la vie. On y viendra dans quelques secondes. Cet article-là a été publié en mars 2009 dans la revue Nature Neuroscience. Vous décrivez là-dedans des mécanismes vraiment très fins qui touchent spécifiquement dans le cerveau un récepteur aux glucocorticoïdes. On est déjà rendu dans les gros mots. Et je vais vous lancer donc le défi de nous expliquer ça dans la langue de tous les jours. Michael Mini, je commence avec vous. Récepteur dans le cerveau, glucocorticoïdes qui sont des hormones. De quoi il s'agit exactement?
Mais les récepteurs glucocorticoïdes, c'est une protéine. Oui. Qui produisent par toutes les cellules dans le corps. Mais l'activité de ce récepteur dans le cerveau est absolument critique pour contrôler nos réactions au stress. Donc, pendant une période de stress, par exemple, il y a une augmentation de pression sanguine, il y a des réactions métaboliques, libération des lipides, des glucoses, et évidemment des réactions psychologiques. L'angoisse, les changements dans les bien-être psychologiques. Toutes ces réactions sont fondamentales pour la personne qui fait face à un stress et surtout pour un stresseur chronique et sévère. Mais il y a des problèmes parce que ces réactions peuvent, en même temps, les réactions prolongées, peuvent promouvoir beaucoup des maladies. Donc, nous pouvons bien contrôler ces réactions. C'est intéressant que toutes ces réactions, les réactions cardiovasculaires, métaboliques, psychologiques, sont contrôlées par la libération d'une hormone. C'est corticolibérine libérée par une région du cerveau qu'on appelle l'hypothalame. Donc, c'est le contrôle de cette hormone, cette corticolibérine, qui est absolument critique.
Et donc, on est dans la biologie très fine. Vous décrivez aussi ce qu'on appelle l'axe en français, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qu'on appelle aussi l'axe du stress. En fait, c'est une série de réactions biochimiques entre le cerveau et les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, c'est bien
exactement.
Ça?
Exactement. C'est le corticolibérine libéré par le cerveau, parce que les réactions au stress, c'est une réaction psychologique au début. Oui. C'est le corticolibérine qui lance tous ces aspects de réaction de stress, le cardiovasculaire, métabolique. Donc, c'est le contrôle de corticolibérine qui est fondamental en déterminant l'importance de réaction de stress d'un individu. Le cortisol et le catecholamine, les deux hormones qui provoquent toutes ces réactions qui sont initiées par le corticolibérine, le cortisol interagit avec les récepteurs glucocorticoïdes dans le cerveau.
Les fameux récepteurs, oui.
Pour contrôler le corticolibérine. Et ça, c'est une réaction inhibitoire. Donc, plus que vous avez, plus que vous produisez le récepteur glucocorticoïde, plus qu'il y a une inhibition sur la libération de corticolibérine, et plus modeste est la réaction au stress.
Donc, c'est une façon de, pour le dire de façon un peu commune, de gérer son stress.
Exactement. Mmh. Exactement.
Et donc, c'est ce mécanisme-là, donc cette voie qu'on va appeler la voie HHS, ça va être plus simple pour éviter les gros mots, c'est ça qui est affecté dans les expériences. Et vous, vous aviez montré, Michael Mini, il y a quelque temps déjà, avec votre collègue Moshe Jif notamment, comment, alors on était chez le rat, chez le bébé rat, comment des bons traitements maternels, pas des mauvais traitements, des bons traitements peuvent affecter de façon positive cette boucle-là HHS. C'est bien ça. Rappelez-nous un peu ça, cette histoire des petits rats
bien choyés par leur maman et par les chercheurs, probablement.
Ben, c'est intéressant. Chez le rat, par exemple, la carence maternelle influence la production des récepteurs glucocorticoïdes dans le cerveau, qui influence l'importance des réactions au stress. C'est un compartiment très spécifique, les léchages de la mère.
Le léchage, oui, c'est très précis.
Qui produit...
Est-ce
qui...
que c'est les chercheurs qui léchent?
Ça peut être.
Le chercheur? Avec un petit pinceau, quand même.
Avec une brosse.
Avec une petite brosse.
Il faut souligner.
C'est dur, la recherche.
On est prêt à faire presque n'importe quoi. Mais c'est la carence de la mère qui produisent les différences dans l'activité de le gène qui est responsable pour la production des récepteurs glucocorticoïdes et dont c'est la mère qui détermine les réactions au stress de ces neurones.
Alors, si on compare des petits rats, le petit rat qui est bien traité par sa mère, bien léché régulièrement, va produire beaucoup de récepteurs aux glucocorticoïdes. Puis le petit rat qui, lui, j'imagine, était négligé, pas battu, mais négligé, oublié par sa mère, qui n'avait pas de mère. Le petit rat orphelin, lui, en produira moins, c'est ça?
C'est exactement ça. Et donc, ils produisent moins des récepteurs glucocorticoïdes, ils contrôlent moins bien la libération de corticolibrine et les réactions de stress sont plus profondes. Mm-hmm. Et donc, les effets de les stresseurs sur la santé de l'animal est plus profond.
Oui. Alors ça, donc, c'était chez le rat, chez le bébé rat. C'était important de le montrer, mais fallait passer chez l'humain. Et là, je vais me tourner vers vous, Gustavo Turecki, parce que vous dirigez le réseau québécois de recherche sur le suicide. Il y a au Douglas, à l'hôpital Douglas, où vous travaillez, une banque de cerveaux de suicidés. Et c'est à partir de ces cerveaux que vous avez fait votre recherche, donc, dont on parle actuellement. On va peut-être d'abord rappeler c'est quoi cette banque de cerveaux de suicidés à l'hôpital Douglas. Quand même, c'est important. Qu'est-ce que c'est?
Donc voilà, la banque des cerveaux, c'est une ressource qu'on a pour avoir accès au tissu cérébral des gens qui sont décédés. On travaille en collaboration avec le bureau de coroner qui nous soutient dans les recherches, qui nous permet de contacter les familles des gens qui sont décédés par suicide et les inviter à faire un don de cerveau pour la banque des cerveaux. On contacte aussi les gens qui ont perdu quelqu'un par un accident, par un autre décès soudain, à faire cet don. Donc, une fois qu'on a le cerveau, on les garde et les tissus est accessible aux chercheurs, à notre groupe et aussi à d'autres chercheurs à faire les travaux.
Et en général, les familles, dans le cas des personnes qui se suicident, les familles acceptent bien de collaborer avec vous, font un don assez facilement? Est-ce que ça se...
Bon, évidemment, c'est à eux de choisir ils font le don ou non. À nous, c'est de l'expliquer l'importance. Évidemment, ce n'est pas non plus un moment facile de faire les dons. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec beaucoup d'attention. Mais d'une façon générale, les familles comprennent l'importance des travaux et quand bien sensibilisés, donc ils vont faire leur choix.
Et donc, décider. Vous avez une banque, comme on dit, avec un certain nombre de cerveaux. Est-ce que c'est une ressource, en termes de recherche, assez rare, c'est une banque de cerveaux de suicidés?
C'est une ressource assez unique. C'est une des seules ressources au Canada et au monde qui est historique et gardée. Et donc, on a aussi l'information sur le développement, l'information psychiatrique. Ce n'est pas seulement les tissus qui est utile,
c'est aussi
mais c'est aussi
la
personne qui avait le cerveau avant. Donc, il faut par la suite engager dans une série d'entrevues avec les familles, de pouvoir comprendre un peu la personne qui est décédée, comprendre la trajectoire de cette personne, etc.
Alors, on va justement donc parler de cette recherche publiée en 2009. Donc, l'idée, ça a été de comparer, pour aller voir les fameux récepteurs aux glucocorticoïdes, de comparer des cerveaux de personnes suicidées qui avaient subi des maltraitances dans leur enfance, des mauvais traitements, à des cerveaux de personnes suicidées qui n'avaient pas subi de mauvais traitements, à des cerveaux de personnes mortes accidentellement, donc non suicidées. C'était ça un peu l'idée.
Et c'est un peu pour faire ce qu'on appelle la translation de la recherche chez les rats. Donc, en regardant les travaux de Maïcon, en discutant les travaux de Maïcon, on s'est dit, mais c'est une question qui est très importante aussi dans les contextes humains.
Oui. Mm-hmm.
On note chez les gens qui sont décédés par suicide, suivant une histoire d'abus pendant l'enfance, une histoire de maltraitance, de négligence aussi.
Oui, oui.
Donc, c'est un facteur de prédiction du comportement suicidaire plus tard dans la vie. Donc, la question que se pose, c'est comment quelqu'un qui a été abusé pendant l'enfance peut avoir un risque de suicide beaucoup plus tard dans la vie. Et on connaît aussi, à travers des recherches, que les gens qui ont une tendance à avoir des comportements suicidaires ont aussi une difficulté à contrôler leur stress. Ils vont réagir au stress d'une façon un peu inappropriée, un peu différente. Donc, on s'est posé l'hypothèse, est-ce que ça se peut que chez l'humain, on voit les mêmes facteurs, les mêmes mécanismes qu'on voyait chez les rats.
Et la réponse a été qu'effectivement, il y avait des différences.
Voilà,
c'est
donc
ça,
effectivement,
de l'article en
c'est
question.
Ça. Donc, effectivement, l'article, c'est qu'on avait pu noter chez l'humain des différences semblables à ça qu'on voyait chez les rats.
Et ça, c'était de façon très claire. Vous aviez bien fait la différence entre le cerveau des suicidés qui avait été maltraité et le cerveau des suicidés. Et là, il y avait vraiment des différences.
En fait, c'était marquant, la différence. C'était vraiment marquant, la différence qu'il y avait entre les gens qui avaient été abusés pendant leur enfance comparativement à ceux qui n'ont été pas abusés au niveau de variabilité qu'on avait regardé dans cette recherche, c'est-à-dire la méthylation du gène.
C'est là qu'on est dans la biologie fine, là où on voit la différence de fonctionnement. Michael Minnis, on a donc confirmé d'une certaine façon que le cerveau des humains fonctionnait à cet égard comme celui de vos petits rats. Ça vous a surpris?
Pas nécessairement, parce que disons qu'on parle d'une réaction très fondamentale pour les mammifères, une réaction au stress.
Qui se trouve chez tous les mammifères,
absolument,
finalement.
Absolument. Mm-hmm. Donc, non seulement que c'est exprimé dans une façon similaire, mais c'est contrôlé par des régions du cerveau qui sont comparables. Et je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas des différences très importantes entre les rats et l'humain.
À l'œil, il y en a quelques-unes.
À ce point-là, on parle d'un processus comparable.
Donc, vous, ça vous a... J'imagine que c'est un peu l'hypothèse qu'on avait. Vous étiez content de confirmer cette hypothèse-là.
Oui, ça m'a frappé, en fait, la différence qu'il y avait, comment qu'on a pu effectivement constater ça. Et comme on avait mentionné avant, c'était exactement ça qu'on s'attendait. Donc, c'est un mécanisme très important de regarder.
Alors, je vous remercie beaucoup. On fait une petite pause de quelques secondes et on revient après pour discuter de la portée pratique de vos travaux, de leur potentiel d'application chez l'humain.
André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, je m'entretiens avec Michael Minnis et Gustavo Turecki, tous deux professeurs au département de psychiatrie de l'Université McGill, chercheurs à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas à Montréal, qui sont les scientifiques de l'année de Radio-Canada pour 2009. Et pour ceux et celles qui nous écoutent au moment de leur rendez-vous hebdomadaire avec le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, je rappelle que cette interview a été enregistrée mardi en public à Montréal, à la Maison de Radio-Canada. Alors, on vient d'expliquer donc ces découvertes très pointues des mécanismes biologiques très très fins, la méthylation de l'ADN, etc. C'est de la génétique très fondamentale, de la biologie fondamentale, mais je voudrais maintenant explorer un peu la portée pratique de ce genre de recherche-là. Gustavo Turecki, là, je l'ai dit, vous êtes psychiatre, vous êtes un chercheur qui est intéressé à la question du suicide, hein, vous dirigez le groupe McGill d'études sur le suicide, le réseau québécois aussi de recherche sur le suicide. Qu'est-ce que ces découvertes-là, très fondamentales, je répète, apportent à des gens qui s'intéressent au suicide comme vous?
Mais je pense que c'est une découverte qui ouvre plusieurs portes. D'abord, ça nous permet de comprendre les problèmes d'une façon différente. Ça permet de pouvoir comprendre un peu comment l'environnement, les effets environnementaux qu'on a toujours constatés comme étant des effets importants au niveau de la pathologie mentale, comment on peut l'expliquer, comment peut avoir un effet sur les génomes, sur la biologie. C'est-à-dire comment qu'il y a vraiment un dialogue entre l'environnement et les processus biologiques. Ça nous permet aussi d'ouvrir les portes pour de nouveaux traitements Éventuellement, c'est
les
sûr que
aussi, oui.
Oui, c'est sûr qu'il faut voir vraiment au loin là. On ne parle pas de demain, mais je pense que ça nous permet de ouvrir les portes pour de nouveaux traitements qui pourraient agir sur les altérations que on avait vues et de peut-être pouvoir réverser les effets en réversant le changement. Donc, mm-hmm. Je pense que c'est très intéressant comme alternative au niveau de l'intervention.
Mais dans l'article, vous parlez d'une altération durable du fonctionnement des gènes en question, les gènes des récepteurs aux glucocorticoïdes, là, altération durable à cause des mauvais traitements dans l'enfance. C'est quand même lourd à porter, c'est les gènes qui sont touchés. Ça nous semble très, très lourd, encore plus lourd qu'on le pensait, non?
Oui, mais ce ne sont pas des altérations qu'on ne pourrait pas nécessairement changer.
Ce n'est pas nécessairement définitif.
Ce ne sont pas définitifs. Même mm-hmm. s'ils sont à long terme, ce ne sont pas nécessairement définitifs.
Alors, Michael Lenné, vous êtes psychologue de formation. Vous vous intéressez beaucoup à cette question de l'influence des soins maternels sur le développement des enfants, les petits rats puis les petits humains, j'imagine. Le genre d'études dont on vient de parler, ça vous permet de mieux comprendre des phénomènes, mais qui, je dirais, me semblent évidents. Hein. Vaut mieux avoir des parents qui vous aiment que des parents qui ne vous aiment pas ou qui vous maltraitent. Non, ça me paraît évident.
Mais nous pouvons toujours considérer les parents comme une source d'information. Parce que la question fondamentale ici, c'est comment est-ce que l'environnement peuvent influencer le développement des différences individuelles stables. Et je pense qu'il faut comprendre que le développement, c'est un processus d'adaptation. Les environnements variés, par exemple, ceux qui sont enlevés, malheureusement, dans les conditions de pauvreté, plusieurs sources d'infections, de violence, etc. Une personne obligée de fonctionner, faire fonctionner dans un environnement comme ça, a besoin d'un caractère différent que quelqu'un qui est blessé par un environnement plus favorable. Bon, comment est-ce que, par exemple, la biologie peut produire ces différences individuelles? Et le processus de développement est évidemment lancé par les parents dans une phase prénatale et postnatale. Et dans ce sens, nous pouvons considérer les parents comme une source d'information. Mm-hmm. Évidemment, le soin parental est influencé par l'environnement. Et nous ne sommes pas dans une situation où vous blâmez les parents pour tout ce qui se passe. Les interactions entre les parents et les enfants se placent dans un contexte. Et c'est le contexte qui détermine la qualité de ces interactions. Donc, nous pouvons, si vous voulez, considérer l'interaction entre les parents et les enfants comme un signal aux enfants de la qualité de l'environnement. Et je pense que, fondamentalement, on parle d'un processus qui est pertinente pour ceux qui ont un fort intérêt dans la psychologie ou la biologie. Et dans ce contexte, chez le rat, par exemple, on a vu comment l'environnement influence la qualité de carence maternelle et que produise un animal qui est très différent par rapport à la qualité de ses interactions.
Mmh. Gustavo Turecki, on va vous dire, le suicide, c'est dans les gènes, donc il n'y a rien à faire. Si on dit ça, est-ce que j'exagère en disant ça? Oui, j'imagine.
Non, en fait, oui. Ces découvertes montrent exactement le contraire. C'est-à-dire que, oui, il y a des gènes. On a tous des gènes. Et les gènes nous donnent une partie de comment on est. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Donc, ce genre de découvertes montrent exactement qu'il y a un gros espace pour l'environnement. Pour l'environnement, pour changer comment les gènes vont fonctionner. Pour dire aux gènes quand et comment être activé. Je pense que ces genres de travaux et ces genres de domaines de travail nous permettent de vraiment concilier deux courants opposés dans la façon comment on regarde les choses qui ont toujours s'ébattu en psychiatrie en disant qui avait raison.
Oui.
Si c'est la courante sociale, la courante biologique. Et ces genres de propositions permettent les gens de pouvoir travailler ensemble et pouvoir comprendre les choses ensemble et voir que les deux ont raison finalement.
Oui.
Ce n'est pas que un ou l'autre, mais que les deux qu'il y a une façon de comprendre.
Mais qu'en tout cas, ce n'est pas une fatalité, par exemple, dans le cas du suicide, ce n'est pas une fatalité.
Et c'est exactement ça, voilà. Mmh. Voilà.
Pratiquement, est-ce que ça pourrait nous permettre de faire des diagnostics ou de regarder certains enfants ou certains jeunes, certains adolescents et de mieux comprendre leur risque, d'évaluer leur risque de suicide, etc. Est-ce qu'on va jusque-là ou
ça,
c'est peut-être un peu tôt?
Ça serait vraiment, oui, c'est tôt. Rien n'est impossible. Écoutez, aujourd'hui, la technologie avance d'une façon tellement rapide que ce n'est pas impossible de penser qu'un jour, on pourrait le faire. étant donné qu'il y a une spécificité aussi au niveau dessus, dans les régions dessus, des choses qu'on ne connaît pas encore exactement. Peut-être aujourd'hui, c'est difficile de penser comment on pourrait le faire sans avoir accès au dessus directement.
Oui.
Mais avec le temps, pourquoi pas?
Peut-être un test sanguin ou quelque chose comme ça. Ouais. Michael Midge, du côté maltraitance, ça donne donc, on comprend l'impact biologique marqué de la maltraitance ou des mauvais traitements chez les enfants dans leur cerveau, dans le fonctionnement de leur cerveau. Et là encore, je vais vous dire la même question, mais finalement, c'est dans les gènes. Une fois que le mal est fait, c'est fait et ces pauvres enfants-là, ils sont condamnés à vivre avec ça, non?
Non, pas du tout. Et effectivement, c'est quand on parle des processus épigénétiques, si vous voulez, le scénario optimistique ici est le fait que c'est des changements, des processus biochimiques qui sont réversibles.
Donc ça, c'est encourageant de ce côté-là. Ou...
Tout à fait.
C'est ça. Est-ce que ça indique, ça nous donne des pistes donc pour dire ou pour nous encourager à intervenir plus tôt pour prévenir, pour faire en sorte que la maltraitance n'ait pas les mauvais traitements n'aient pas ces effets-là?
Absolument. Je retourne encore au sujet de l'importance et le contexte dans lequel la famille fonctionne. C'est absolument, ça parle fortement en faveur des interventions au niveau communautaire et familial, parce que c'est à ce point-là que les processus épigénétiques sont déterminés. Ils sont réversibles, mais pourquoi pas imposer des interventions jusqu'à le point absolument critique. Mm-hmm. Et je pense qu'à ce point-là, il faut vraiment bien apprécier comment la fonction d'une famille est déterminée par le contexte et le contexte communautaire. Mm-hmm. Donc, on parle, c'est dans un sens ironique qu'un biologiste ici pour parler de l'importance des interventions sociales.
Alors, donc, on a là, effectivement, une description fine. On comprend mieux, au fond, pourquoi c'est les mauvais traitements et comment les mauvais traitements peuvent avoir un effet sur le fonctionnement, un effet durable, on l'a dit, pas permanent, peut-être réversible, mais un effet durable sur le fonctionnement du cerveau de ces enfants-là quand ils vont être adolescents et adultes. Hein. Et
effectivement, on pose la question comment les influences sociales rentrent sous le pot. Mm-hmm. Et je pense qu'à ce point-là, il faut comprendre un peu comment les processus épigénétiques se placent. C'est intéressant parce que même qu'on considère les matériaux génétiques, l'ADN, comme quelque chose de très mystère, effectivement, c'est une molécule. Et comme toutes les molécules, c'est la fonction de l'ADN est influencée par sa structure. Mm-hmm. Donc, ça peut être tiré ou ça peut être très ouverte. Quand l'ADN est ouverte, il est capable d'interagir avec les autres signaux cellulaires.
D'accord.
Et c'est comme ça que les processus, les étiquettes épigénétiques, mm-hmm. qui sont déterminées par les influences sociales, c'est ça qui influence l'activité de l'ADN.
On va y venir, on va parler un peu plus d'épigénétique dans quelques minutes, mais est-ce que ce genre de travaux-là, de recherche-là sur l'effet des mauvais traitements chez les enfants, sur leur effet durable en termes biologiques, est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde qui se fait beaucoup, par exemple du côté suicide, est-ce que ça se fait beaucoup? Est-ce que c'est une approche qui intéresse beaucoup les chercheurs?
Mais je pense que c'est une approche qui intéresse de plus en plus. On voit de plus en plus des études qui sont publiées à ce niveau, mais on est encore vraiment au début. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de questions fondamentales vis-à-vis l'épigénétique et vis-à-vis l'application de l'épigénétique dans la compréhension de la maladie mentale et du suicide.
Et c'est la même chose du côté des effets des mauvais traitements chez l'enfant. C'est quelque chose qui intéresse de plus en plus la communauté scientifique.
Absolument. Et surtout pour les raisons que Gustave a mentionnées, parce que ce modèle, si vous voulez, ça crée une fusion entre les sciences sociales et les sciences biologiques. Et c'est probablement cet aspect qui est peut-être le plus important.
Alors, je vous remercie. On fait une autre petite pause et on revient pour parler donc de cette discipline ou de cette approche scientifique montante qu'on appelle l'épigénétique dans quelques secondes. Entretien avec les scientifiques de l'année de Radio-Canada pour 2009. Ils ont montré comment des expériences de vie comme la maltraitance pendant l'enfance peuvent altérer de façon durable le fonctionnement de gènes dans le cerveau humain. Je rappelle que cette partie
du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada a été enregistré mardi en public à Montréal, à la maison de Radio-Canada. Je suis de retour avec nos deux scientifiques de l'année de Radio-Canada, Michael Mini, psychologue de formation, Gustavo Touaiki, psychiatre. Tous deux, vous êtes professeurs au département de psychiatrie de l'Université McGill, chercheurs à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, c'est à Montréal. Et donc, on va parler, on a déjà dit le gros mot, hein, le beau mot, l'épigénétique. Ce qu'il y a épi, c'est ce qu'il y a au-dessus, hein, l'épigénétique, c'est ça. C'est presque une discipline, en tout cas, c'est une approche, hein, Michael Mini, qui est de plus en plus, qui intéresse de plus en plus de chercheurs. Je vous demandais de nous faire une définition, une explication de ce que c'est l'épigénétique.
L'épigénétique, mais je retourne un peu. Oui. Sur les questions que Gustavo m'a enseignées, c'est le grand débat entre l'importance des facteurs génétiques versus des facteurs environnementaux. Et effectivement, c'est un faux débat parce que toutes les caractéristiques d'un individu sont déterminées 100% par une interaction entre les deux.
Oui.
Mais c'est quoi ça? Comment, oui. comment est-ce qu'un facteur environnemental peut interagir directement avec l'ADN? Donc, l'ADN, c'est une molécule, comme toutes les molécules dans une cellule, c'est contrôlé par les interactions avec les autres molécules, les signaux. Il y a une certaine classe des signaux qu'on s'appelle des facteurs de transcription. Oui. C'est une protéine produite dans une cellule. Qu'est-ce qui est absolument critique de comprendre, c'est que ces facteurs et leurs activités, ces facteurs de transcription, sont contrôlés par les événements environnementaux. Événements environnementaux va provoquer une activation des facteurs de transcription. Les facteurs de transcription s'attachent à l'ADN et déterminent l'activité d'une gène.
Et donc, par exemple, peuvent augmenter son expression ou la diminuer.
Exactement. Mm-hmm. Donc, les gènes sont physiquement contrôlés par une catégorie de protéines qui sont contrôlées par les événements environnementaux. Et c'est pourquoi les interactions sont toujours pertinentes. Mais les processus épigénétiques détermine la capacité de l'ADN à répondre à ces facteurs de transcription. L'ADN, c'est une molécule, comme toutes les molécules, son activité est déterminée par sa structure. Mm-hmm. Ça peut être fermé ou ouverte. Quand l'ADN est ouverte, il a la capacité de répondre plus facilement à ces facteurs de transcription. Les marques ou les étiquettes épigénétiques déterminent la structure de l'ADN. Quand l'ADN porte un signal, un groupe métal, bien, ça on appelle la méthylation de l'ADN,
oui, la méthylation,
ça favorise une structure plus serrée. Donc, ça favorise, si vous voulez, un silencement de l'ADN. C'est cette processus qui est déterminé un peu dans le cellule humaine par la maltraitance.
Par exemple. Mais ça peut être aussi d'autres événements. Ça peut être des peurs, ça peut être de la violence, ça peut être d'avoir vécu des guerres, etc. Tout ça, ça peut toucher le fonctionnement de notre ADN.
Exactement. Et effectivement, on parle d'un processus biochimique par lequel les influences sociales peuvent rentrer sous la peau.
Comme on dit, comment le social rentre sous la peau, la fameuse expression. Et ça, est-ce que les gènes sont eux-mêmes modifiés ou c'est leur fonctionnement qui est modifié?
Les deux. Gènes sont modifiés dans le sens, on ne parle pas d'un changement dans la séquence, parce qu'effectivement, nous pouvons considérer...
Le gène reste le même.
Le gène reste le même. Il n'y a aucune altération dans la séquence d'un gène. Mais il y a une altération dans le chimique, les modifications chimiques de l'ADN. On s'attache à une étiquette épigénétique qui change la structure et donc l'activité de l'ADN.
Et la grande question, ça va être, est-ce que ça va être transmissible à la génération suivante? Grande question et question difficile, je suis sûr.
Deux réponses. Il y a une possibilité de transmettre directement les étiquettes épigénétiques parents à le progéniteur. C'est possible. Mais qu'est-ce qui est aussi
donc,
possible?
Donc, ça serait de l'hérédité au-delà ou sans les gènes ou à côté des gènes?
Possiblement.
Ça, c'est vrai.
On est très tôt, mais il y a au moins une précédente chez le souris, effectivement.
Oui.
Mais il y a aussi une autre possibilité. Le soin parental peut influencer le soin parental de la prochaine génération, dont nous pouvons transmettre les étiquettes épigénétiques par un processus comportemental, si vous voulez. Parce que, effectivement, les différences individuelles dans la carence maternelle sont héritables, mais d'une façon comportementale.
Oui, c'est plus culturel. Au fond, ma mère m'a battu et je bats mon enfant.
Oui,
Mais ce n'est pas dans les gènes que c'est inscrit ce comportement-là.
Ben, c'est inscrit dans les gènes dans une façon épigénétique parce que, effectivement, c'est non seulement les gènes qui contrôlent les réactions de stress, qui sont marquées par ces étiquettes épigénétiques, mais aussi les gènes qui influencent le comportement de les progéniteurs des femelles et qui sont responsables pour les différences individuelles dans la carence maternelle.
Alors, quand je dis que l'épigénétique, c'est une discipline montante ou une approche montante, effectivement, on le voit, j'imagine, ça intéresse beaucoup, beaucoup de chercheurs. En psychiatrie, Gustavo Turecki, il y a un vieux débat entre l'inné et l'acquis, par exemple. Est-ce que l'approche épigénétique vient faire, comme vous le disiez un petit peu, vient changer un petit peu ou vient faire le lien entre les deux, c'est ça?
Mais tout à fait. Je pense que l'approche épigénétique nous permet, évidemment, de pouvoir comprendre les deux, de pouvoir avoir une approche entre les deux et pouvoir comprendre exactement comment que le social vient modifier le biologique. C'est important de penser qu'on a des gènes qui nous donnent des caractères, mais en même temps, on ne serait pas capable de s'adapter à l'environnement si on n'était pas responsive aux événements de l'environnement. Si on ne pouvait pas s'échanger et pouvoir répondre au cul de l'environnement. Donc, c'est important de pouvoir s'adapter et les aspects épigénétiques nous permettent de le faire. Et donc, parfois, peut-être, les résultats sont un résultat qui nous empêche de pouvoir bien fonctionner socialement, nous empêche de pouvoir bien se relationner avec l'autre et qui parfois nous empêche de nous amène à avoir de la souffrance et éventuellement de la maladie mentale. Donc, l'approche épigénétique est de plus en plus intéressante comme modèle pour pouvoir expliquer exactement la source.
On a eu beaucoup en psychiatrie, on a pu faire il y a presque un balancier qui s'est produit. Je sais pas, on pouvait avoir une explication toute entièrement psychologique ou même par la psychanalyse, par exemple, tout était psychologique. Il y a d'autres explications où on insiste sur le tout biologique. Et ce que vous dites finalement, c'est que l'épigénétique, ça...
On est dans le milieu maintenant, peut-être.
Ça ramasse les deux.
On est soit dans l'un ou l'autre, on est dans le milieu. Et dans ce contexte, c'est beaucoup plus intéressant comme approche théorique.
Et ce débat-là, il y a Michael Mini, entre l'inné et l'acquis, c'est un peu le débat qu'on pourrait appeler nature-culture également. Hein. C'est la même chose. On a l'impression que ce genre de travaux-là que vous faites vient donner une dimension très biologique à des phénomènes qu'on appelait avant sociaux ou psychologiques. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout. C'est exactement ça. Effectivement, le processus de développement est autant social que biologique et on parle comment les deux sont fusionnés.
Donc, c'est ça qui est important. On peut imaginer aussi qu'il va falloir voir ces approches-là pour beaucoup d'autres domaines, pas seulement pour les mauvais traitements et le suicide, mais pour beaucoup de phénomènes en santé, en médecine, etc.
Absolument. Effectivement.
Oui. Par exemple, oui.
Mais je me souviens, pendant ma formation clinique, par exemple, nous avons considéré, surtout en psychiatrie, mais aussi dans les autres, avec les autres maladies, ça, c'est une origine biologique dont il faut le traiter avec une intervention biologique. Ici, par exemple, on parle d'une dépression, peut-être une autre maladie qui est déterminée plus par les facteurs sociaux, donc ça prendrait plus la psychothérapie. Mais effectivement, par exemple... Ça peut être une ou l'autre avec les deux situations, parce qu'on parle de exactement comment les influences sociales peuvent influencer l'activité des gènes.
Oui.
Évidemment, nous pouvons imaginer...
On est dans du biologique, là.
Absolument, nous pouvons imaginer...
Je pense que c'est les différences entre le biologique et le social disparaissent avec le temps. L'épigénétique, c'est vraiment la possibilité de concilier les deux ensemble.
Alors, on va terminer, on est presque à la fin de l'entrevue. Je veux parler un petit peu de vous, de votre parcours personnel, scientifique aussi. Gustavo Turecki, vous êtes originaire d'Amérique latine.
Oui, voilà. Donc, je suis
d'Argentine, c'est ça?
C'est ça. Je suis né en Argentine. Ouais. Je suis né en Argentine, fait par après ma formation médicale au Brésil. Et une partie de ma formation en sciences au Brésil. Par la suite, je suis venu à Montréal travailler, faire mon PhD, ma formation.
Et pour quelle raison à Montréal? Parce qu'il y avait un centre, c'est un milieu de recherche important. Pourquoi?
Bon, évidemment, Montréal a beaucoup de ressources au niveau de neurosciences, a une communauté en neurosciences qui est très, très importante et très reconnue internationalement. Donc, ça m'a attiré énormément à venir ici. Et aussi parce que j'aime beaucoup le froid.
C'est ton pays.
Oui, le froid, vous êtes gâté, c'est bien. Mais donc, vous êtes venu ici directement à McGill, c'est ça?
Voilà, je suis venu directement à McGill.
C'est ça. Et vous, Michael Mini, c'est un peu le contraire. Vous êtes né à Montréal, vous?
Oui.
Vous êtes un vrai Montréalais?
D'origine irlandaise, oui.
D'origine irlandaise. Vous avez donc étudié, vous avez fait toutes vos études à Montréal?
À Montréal, et ensuite, j'ai poursuivi mes études à New York.
C'est ça, oui.
À peu près 3 ans. Et je me souviens, quand j'ai quitté Montréal, par exemple, j'ai regardé la ville dans mon miroir en arrière et j'ai dit, bon, qu'est-ce que va... Eh bien, en tout cas, aussitôt que j'ai reçu une offre de retourner à Montréal, je l'ai accepté tout de suite.
Et vous êtes là, donc, à McGill depuis très longtemps.
Hein? Très longtemps, merci beaucoup. Oui.
Depuis un certain nombre d'années.
Oui, j'ai même reçu ma petite pin pour 25 ans de service
de
rendu.
De moyens au service,
oui,
c'est ça.
Merci beaucoup.
Mais il faut dire que vous nous quittez pour aller à Singapour, non? Enfin, vous ne nous quittez pas, mais vous êtes aussi professeur à Singapour, chercheur. Qu'est-ce que vous faites à Singapour? Expliquez-nous ça.
Bien, à Singapour, effectivement, c'est une autre étape. On essaie de poursuivre le même genre des études dans un contexte asiatique pour non seulement poursuivre les objectifs de la recherche, mais aussi pour créer plus des services en santé, surtout santé mentale là-bas. Mm-hmm. Et c'est une opportunité énorme par laquelle je peux poursuivre les mêmes intérêts, les mêmes objectifs.
Et est-ce que c'est, justement, vous dites dans un contexte asiatique, est-ce qu'effectivement ce genre de recherche-là se fait différemment là-bas? Est-ce que vous avez des possibilités de recherches différentes, par exemple, ou plus importantes, ou autres?
Il y a énormément de support gouvernemental pour le développement des programmes de recherche et des interventions sur la santé mentale. Évidemment, dans la région de l'Asie, en général, c'est quelque chose qui serait de plus en plus important. On voit la Chine, le Vietnam qui développent aussi les besoins de ces services. Donc, je pense, en général, c'est absolument critique de développer ces ressources, mais dans un contexte asiatique, parce qu'il y a des différences culturelles assez importantes.
Mais rassurez-nous, vous n'êtes pas un chercheur qui s'en va, qui émigre, qui quitte Montréal. Vous êtes un chercheur qui reste quand même ici.
Je suis Montréalais.
Vous êtes Montréalais et chercheur à McGill. Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux. Donc, Michael Mini et Gustavo Turecki de l'Université McGill et de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas à Montréal. Je rappelle donc que vous avez remporté le titre de scientifique de l'année de Radio-Canada pour 2009. Et cela pour votre découverte des effets épigénétiques, on comprend le mot maintenant, de la maltraitance infantile sur le cerveau humain. Félicitations à vous deux, Schuling, qu'on vous retrouve la semaine prochaine à l'émission Découverte à la télévision de Radio-Canada. Ça sera donc dans l'édition du 24 janvier. Merci, messieurs.
Merci, Yannick.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de la première heure. En deuxième heure, après les nouvelles, un spécial sur Haïti et sur le drame haïtien, mais vu de façon particulière, vu avec l'œil de la science et de la technologie. À tout de suite. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours et l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette deuxième heure, elle va être entièrement consacrée au drame haïtien, sismologie, urgence et suivi sanitaire, épidémiologie des catastrophes, méthodes de construction et de reconstruction, prévision et détection précoce des séismes. On va parler de tout ça avec nos invités dans l'heure qui vient. Alors, on ne le savait peut-être pas, ou en tout cas, on ne le savait plus peut-être aussi, l'île d'Hispaniola qu'Haïti partage avec la République dominicaine est un endroit propice aux tremblements de terre. Coincée entre deux plaques tectoniques, elle est traversée par deux failles. Petite récapitulation géologique, Sophie André.
Oui, Yannick, l'île est située à la frontière entre deux plaques tectoniques majeures, la plaque Caraïbe et la plaque Amérique du Nord. Ces plaques convergent, l'une plonge sous l'autre, on est en zone de subduction. Le mouvement se produit à la vitesse de 2 cm par année, ça crée des fractures, des failles, et deux de ces failles traversent l'île d'Hispaniola. Alors, ces failles sont des zones d'activité sismique, et dans le monde des séismes, il y a une vérité incontournable et centrale. Mm-hmm. Là où la Terre a tremblé, elle tremblera encore.
Eh oui, eh oui.
Et oui, déjà, la faille qui traverse l'île d'Haïti, qui traverse la ville de Port-au-Prince, avait causé des séismes majeurs. Un séisme a, par exemple, détruit Port-au-Prince en 1751.
Est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, qu'on connaît bien la géophysique de cette île-là?
En fait, non.
Non?
Parce
ah
que
bon?
Les moyens sont limités, les études sont rares en sismologie, en géologie à Haïti. Le professeur de géophysique Éric Calais de l'Université Purdue travaille à récolter des données sur la région, avec entre autres une étude de géodésie spatiale menée depuis 2005 pour quantifier l'aléa sismique sur le territoire. Il nous explique ce qu'on sait et ce qu'il manque comme information sur la région.
Cette faille qui s'appelle, dans la littérature anglo-saxonne, la faille d'Enriquillo, dans la littérature francophone, en général, on l'appelle la faille de la presqu'île du Sud, parce qu'elle traverse la presqu'île du Sud d'Haïti. Elle est sur toutes les cartes géologiques et des travaux un peu plus récents ont permis de détailler exactement son trajet.
On savait donc qu'il s'y accumulait de l'énergie depuis longtemps. Quand on lit la littérature, on sentait qu'il y avait un éveil, une alarme qui était en train de se sonner par rapport au potentiel autour de cette faille.
Oui, c'est vrai, mais ça, ce sont des résultats relativement récents. Hein. D'ailleurs, titre d'anecdote, quand j'ai défendu ma thèse il y a maintenant bien longtemps, je travaillais sur cette région-là déjà, on m'avait posé la question, quelle est la vitesse à laquelle s'accumule l'énergie élastique sur cette faille? Est-ce que c'est une faille vraiment active, une faille vraiment importante? Et à l'époque, j'avais été bien incapable de répondre, parce qu'on n'avait pas les données qui permettaient de dire si cette faille, même si on la voit dans la géologie, si cette faille est effectivement en train d'accumuler des contraintes qui vont se relâcher lors d'un séisme. Alors ce que nous avons fait, nous, plus récemment, donc au cours de ces 5 dernières années, nous avons mesuré, en utilisant la technique du GPS, du Global Positioning System, nous avons mesuré l'accumulation de cette déformation élastique le long de cette faille. Et c'est ça qui nous a permis de dire qu'effectivement, c'était une faille active, c'était une faille qui était en train d'emmagasiner une certaine quantité d'énergie qui devra irrémédiablement être relâchée un jour ou l'autre lors d'un séisme.
Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant au niveau des connaissances qu'on était en train d'accumuler, au niveau des connaissances probablement inestimables, tristement inestimables, qu'on vient d'accumuler avec la survenue du séisme? De votre point de vue, de l'étude de cette faille, de l'étude de cet endroit, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Ben, d'abord, je dirais que la première chose qui est relativement importante à souligner, c'est que finalement, c'est tristement peut-être, mais enfin, c'est une relative, un relatif succès scientifique, puisqu'on a pu, grâce aux mesures qu'on a réalisées sur cette faille, on avait pu diagnostiquer, pas la date ni l'heure du séisme, enfin, diagnostiquer que cette faille était capable de créer un séisme de cette magnitude. Et malheureusement, la nature nous a donné raison. Alors maintenant, ce qui est important pour nous de comprendre plus en détail, maintenant que le séisme a eu lieu, c'est, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé exactement d'un point de vue mécanique, qu'est-ce qui s'est passé sur cette faille, de combien a-t-elle bougé, sur quelle longueur, sur quelle profondeur, C'est, on va dire, le diagnostic de base que les géophysiciens font à chaque fois qu'il y a un séisme quelque part. On ausculte, on va essayer d'ausculter la région pour savoir comment elle s'est comportée lors du séisme.
Pour pouvoir être mieux outillé, pour mieux mesurer les risques à venir, de séisme à venir, parce que là où il y a eu séisme, il y aura séisme.
Voilà, c'est vrai, là où il y a eu séisme, il y aura séisme. Alors sur une faille comme celle-ci, il est assez peu probable que ce même endroit, cette même portion de faille casse à nouveau dans un temps proche. Mais ce qui est plus important que cela, c'est d'essayer de comprendre comment le reste de la faille, parce que cette faille, elle continue vers l'est en République dominicaine, vers l'ouest jusqu'à la Jamaïque et même au-delà, et comment ces continuations de failles et comment d'autres failles peut-être en Haïti ou en République dominicaine pourraient être activées par le séisme qui vient d'avoir lieu.
On le sait, Haïti est un pays en développement. Il y avait déjà, vous l'avez décrit, ce système de mesure, d'évaluation avec les GPS sur cette faille-là. Est-ce qu'il y a assez d'équipements sur place? Est-ce que la science est assez équipée pour être efficace tout de suite pour recueillir les données cruciales qu'elle doit recueillir?
Absolument pas. Haïti est un pays qui n'a pas de station sismologique. Il y a zéro station sismologique en Haïti. Donc, de fait, la sismicité, disons, d'arrière-plan, les petits séismes qui arrivent de manière relativement fréquente dans les zones frontières de plaques, on ne les connaît pas, on ne sait pas sur quelle faille ils se trouvent. Donc, on est vraiment aveugle du point de vue de la connaissance géophysique en Haïti. Et il y a très peu de travaux qui ont été faits dans les 20 dernières années. Donc, il y a un retard énorme sur la connaissance géophysique en Haïti.
Quand on lit les papiers que vous avez écrits, on voit là que vous aviez prévu effectivement beaucoup de ce qui se passe là. Il y avait des gens sur place comme Claude Pripetit au Bureau des mines et de l'énergie. Donc déjà, à Haïti, on sentait qu'il y avait un début de prise de conscience et peut-être de mobilisation au sujet de l'urgence de s'équiper pour mieux prévenir.
Oui, c'est vrai. Et donc Claude Prepty, qui est un de mes collaborateurs principaux en Haïti, qui travaille pour le Bureau des mines et de l'énergie, là-bas, a été une des personnes clés pour un petit peu sonner le réveil dans le pays. Donc depuis 2000-2001 à peu près, nous travaillons ensemble à essayer de comprendre ce qui se passe et puis surtout à essayer de faire passer un message aux officiels haïtiens, au gouvernement, pour leur faire prendre conscience qu'il y a un risque et donc qu'il faut agir, qu'il faut s'en préoccuper.
Savez-vous ce qu'il advient? Parce que le Bureau des mines et de l'énergie, c'est à Port-au-Prince. Est-ce qu'il y a encore de l'infrastructure pour poursuivre le travail là-bas?
J'en ai aucune idée. C'est mon souci essentiel en ce moment, c'est d'avoir des nouvelles de mes collègues, des amis que j'ai là-bas, des collaborateurs. J'ai été capable de joindre personne. Je ne sais pas du tout ce qu'il est advenu du Bureau des mines. Leurs locaux sont situés en ville, dans des bâtiments en béton, typiques des bâtiments qu'on a vus sur toutes les photos dans la presse, qui ont été détruits. Donc je crains très fortement qu'ils aient été sévèrement affectés par l'événement.
Éric Calais est professeur de géophysique à l'Université Purdue en Indiana aux États-Unis. C'est Sophie Henry qui l'a rejoint. Maintenant, Chantal, je me tourne vers vous parce que ce tremblement de terre en Haïti donc a fait des dizaines, sinon peut-être on peut le craindre, des centaines de milliers de morts, sans parler des blessés, des sans-abri, des orphelins, etc., etc. C'est un drame de santé, de bien-être des populations énorme. Les effets de ce désastre naturel sont majeurs. Ils vont se faire sentir encore très longtemps, Chantal.
Et cela d'autant plus, Yannick, que ça survient dans un pays où 80% de la population, il faut le rappeler, oui, vivait déjà auparavant sous le seuil de la pauvreté. Et dans ce contexte, il faut aujourd'hui sauver des victimes ensevelies, soigner des blessés, fournir de l'eau, de la nourriture, des médicaments, des logis. Bref, tout est à faire. C'est et ce sera encore très difficile pour un bon moment. Cela étant dit, au fil des tragédies, les médecins ont appris tant bien que mal à prévoir ce qui les attendra une fois qu'ils seront confrontés aux victimes d'un désastre. Par exemple, on sait que les séismes ne provoquent pas à proprement parler d'épidémie, sauf pour la diarrhée liée à la consommation d'eau non potable. De même, on sait que les cadavres, il faut souligner, ne transmettent pas de maladies.
Oui, il faut le rappeler. Et il y a même une branche, il faut le dire, hein, certains, une branche de la médecine qui s'intéresse précisément à ça, à ces questions-là. Hein?
Et ouais. C'est même la spécialité de la docteure Debarati Gouha Sapir, qui dirige depuis 13 ans le Centre de recherche en épidémiologie des désastres. C'est un centre de référence de l'OMS qui est rattaché à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Madame Gouha Sapir est médecin de formation. C'est une sommité en la matière. Elle a étudié sur le terrain l'impact de désastres en Italie, en Chine, en Indonésie et j'en passe. Et sa contribution vient d'ailleurs d'être reconnue par l'Association mondiale de médecine d'urgence qui lui a remis un prix en mai dernier. Je l'ai jointe à Calcutta en Inde, sa terre d'origine où elle séjourne à l'occasion. Elle nous explique tout d'abord en quoi ça consiste l'épidémiologie des désastres.
L'épidémiologie des désastres, en fait, c'est un peu, si vous voulez, une étude de l'impact d'un désastre naturel tel qu'un tremblement de terre ou des cyclones, dans lequel on essaye de décerner qui sont les gens plus à risque de mourir ou être blessés comparés à les autres. Donc, c'est le même modèle qu'une épidémiologie d'une maladie infectieuse, d'une épidémie. Donc, quand vous avez une épidémie, tout le monde n'est pas malade. Il y a certains gens qui sont plus malades ou qui tombent malades et pas des autres. Ça veut dire que ces gens sont à risque élevé. Et c'est le même modèle qui est appliqué dans un tremblement de terre en disant que même si tout le monde est dans la même zone d'un tremblement de terre, il y a certaines caractéristiques qui font qu'il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables d'être blessées ou décédées pendant un tremblement de terre qu'est notre. Et voilà. Et l'étude consiste à étudier ces facteurs de risque pour pouvoir faire un programme de prévention plus ciblé.
Quels sont-ils, Mme Gouha Sapir, ces facteurs de risque qu'on a identifiés au fil des recherches?
Les facteurs de risque sont un peu différents selon le désastre naturel. Donc, par exemple, pour un tremblement de terre, nous avions fait des études qui démontraient l'unité de familiale qui consiste à une personne sont souvent à une mortalité beaucoup plus élevée que les familles qui a deux personnes ou plus. Ça veut dire que même si on est des jeunes gens normalement qui sont le moins vulnérables, disons un homme de 24 ans, 25 ans, 35 ans, s'il est seul, si c'est dans un immeuble qu'il est seul, il a beaucoup plus élevé un risque de mortalité que un couple qui sont plus âgés. Parce que en fait, le premier secours, disons, l'extraction des gens sous le débris, partout dans le monde, en Haïti comme en Italie, c'est fait par les proches, c'est-à-dire les familles ou des gens, des voisins ou les gens à côté de vous. Quand l'assistance externe arrive, ils sont souvent beaucoup, beaucoup trop tard. En 6 heures après un tremblement de terre, tout le monde qui devait mourir dans le tremblement de terre sont déjà morts.
Donc, 6 heures?
Voilà, entre 6 et 12 heures, disons 90 à 95% de la mortalité totale d'un tremblement de terre est déjà terminée. Donc, quand vous avez un tremblement de terre comme Sichuan en Chine, vous avez eu 80 000 morts après ce tremblement de terre. 70 000 morts auraient été déjà terminées en 6 heures à 12 heures de l'événement. Donc, ça fait que l'aide internationale, c'est beaucoup, beaucoup trop tard pour sauver des gens de le débris. C'est beaucoup trop tard. Les seuls gens qui sont sauvés, c'est sauvés par les gens qui habitent avec.
Vous évoquez également d'autres facteurs qui...
Autres facteurs. Par exemple, et là, c'est pas simplement le tremblement de terre, mais c'est aussi pour les inondations rapides. En anglais, on dit flash floods, inondations rapides. Et on a vu la même chose, même dans les famines en Afrique, mais aussi pour le tremblement de terre. Ce n'est pas les tout petits enfants qui sont plus vulnérables à ces événements, pour les famines, le cyclone ou les inondations ou le tremblement de terre. Ce n'est pas les tout petits. Ce n'est pas celui de 11 mois, 24 mois ou 36 mois. C'est les enfants plus grands, c'est-à-dire les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils sont en plus haut risque. Parce que souvent, quand il y a un petit, le petit est protégé par leurs parents. Donc, le parent le prend dans leurs bras et le prend avec eux. Et il demande, il crie à l'autre qui sont mobiles, de 6 ans, 7 ans, pour courir, pour se sauver. Eh bien, un enfant de 6 ou 7 ans n'a pas le moyen, dans un chaos, de pouvoir se sauver. On attend trop de lui. Mais un petit de 2 ans ou un bébé sont pris en charge par les parents. Donc souvent, eux, ils sont protégés. Mais les enfants qui ont demandé de courir ou de se protéger ne savent pas. Et ça, c'est les enfants de 6, 7, 8, 9 ans. Et on voit la même chose dans les famines. Dans les famines, la mortalité pour les enfants, des enfants un peu plus âgés qui sont envoyés dans le terrain en Afrique pour chercher la nourriture eux-mêmes, dans les brousses, ces enfants n'arrivent pas à trouver suffisamment à manger. Tandis que les petits, les parents s'occupent de leur nourriture. Donc la mortalité est beaucoup plus élevée pour les enfants 5 à 9 ans, contraire à le profil de vulnérabilité normal qui est entre 0 et 5 ans. C'est considéré comme l'âge le plus vulnérable. Voilà.
Donc l'âge...
Ça, c'est aussi une finding, un résultat.
Un résultat. D'autres résultats dignes de mention sur des sources de vulnérabilité accrue face aux désastres en situation de crise comme ça?
Alors, il y a un autre facteur qui est en fait très, très, très relevant pour la Haïti. Ça, c'est la suite des soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on fait l'extraction de quelqu'un, le débris d'un tremblement de terre, souvent c'est ce qui arrive, il y a des équipes de chirurgiens, il y a des équipes internationales d'anesthésiologues, de traumatologues et toutes sortes de gens qui sont là, qui leur font des amputations, qui font toutes sortes d'interventions chirurgicales de très haut niveau. Et puis après 3 semaines, après 4 semaines, après 6 semaines, ils s'en vont. Tous les équipes de votre pays, sans doute de mon pays en Belgique ou d'autres pays, ils arrivent, ils font leur intervention, ils s'en vont après ça. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, et certainement c'est ce qui va se passer en Haïti, il n'y a pas un soin médical adéquat de suite.
Il n'y a pas de suivi donc, médical, donc.
Il n'y a pas, parce que rappelez-vous que quand on a de gros traumas, on a eu des chirurgies, le soin de nursing est extrêmement important après. Parce que c'est là que vous avez des infections, des complications, etc. Donc, quand toutes ces équipes s'en vont, les patients sont laissés à l'infrastructure locale. Et s'il n'y a pas une infrastructure locale adéquate pour suivre des patients de hauts traumas, évidemment, ces patients sont dans un mauvais état parce qu'il y a un contrôle d'infection pas suffisante ou il y a d'autres complications qui ne sont pas suivies. Donc pour Haïti, je trouve, et c'est ce que je dis toujours pour le moment, je trouve que le pays est tellement pauvre, c'est le plus pauvre pays dans le monde. Il faut prévoir un soin, une intervention d'urgence qui est plus longue qu'une intervention d'urgence normale, c'est-à-dire 3 mois. Il faut que l'équipe reste plus longtemps parce que l'infrastructure locale n'est pas à la hauteur de suivre.
Combien de temps il devrait rester?
Moi, je dirais que la situation humanitaire urgente en Haïti est sûrement pendant 6 mois. Sûrement. L'infrastructure est extrêmement faible chez eux, extrêmement faible. Si on les laisse, on laisse les patients à leur sort qui sera triste. À mon avis, là, le pays qui envoie l'assistance doit prévoir une assistance d'urgence plus longue.
Madame Gouassapir, dans une zone, dans un pays aussi démuni que l'est Haïti, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à faire face à une telle horreur que ce qui vient de se vivre là? On a beau avoir une foule d'informations, des preuves de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on peut mettre tout ça en œuvre dans un pays qui est démuni au point où l'est Haïti?
Écoutez, il y a deux choses pessimistes et une chose optimiste. Le pessimiste, c'est que d'abord, le tremblement de terre, on ne peut pas le prévenir. On ne peut pas l'empêcher ni prévenir. Deuxième chose, c'est aussi vrai que le Haïti étant aussi pauvre, il y a une limite de ce qu'on pourrait faire. Il y a une limite très, 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 très élevée. C'est-à-dire qu'il y a très peu qu'on peut faire. Donc ça, c'est les deux points pessimistes. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même... Il y a deux choses, vous savez, pour Haïti, et je vous dis comme ça. Le gouvernement de Haïti est un gouvernement qui est inadéquat, si vous voulez un mot très léger. Inadéquat. Il n'a jamais, depuis des années, il n'a jamais fait quelque chose pour leur population. Rien, absolument rien. Donc, et nous sommes tous complices de ça. Nous faisons partie de ça. On le permet. Et c'est le résultat de ça Et quand vous avez un désastre naturel aussi léger, la moindre chose en Haïti va devenir une catastrophe parce que les gens vivent dans une situation tellement précaire que le moindre secousse va leur mettre dans le chaos. Ici, vous avez un tremblement de terre important. Ils ont eu beaucoup de dégâts. Ça m'étonne pas du tout. Mais par contre, je trouve, comme j'ai dit, il y a quand même un point optimiste. Je trouve l'urgence comme ça, cette catastrophe comme ça, c'est quand même une opportunité. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels un désastre a complètement changé une situation parce que c'était la goutte qui fait déborder le vase. Et ça ouvre une porte qui était fermée jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que c'est l'occasion pour toute l'assistance internationale d'essayer d'établir des renforcements de certains mouvements civiques ou un programme basé communautaire. Il y a des modèles qui existent pour la prévention des désastres, mais basé avec les écoles, avec le groupe des femmes, avec le Croix-Rouge volontaire. Et il faut essayer, maintenant qu'il y en a entré, il faut maintenant essayer de créer des petits groupements ou mettre en place les programmes en base communautaire. C'est le moment. Et le modèle existe ailleurs, donc il faut que nous faisons quelque chose en Haïti pour cette occasion.
Ben écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces informations, Mme Gouas-Sapir. Merci beaucoup.
De rien. Au revoir.
C'était donc la médecin épidémiologiste d'origine indienne, Debarati Gouas-Sapir, que vous avez joint, Chantal, à Calcutta, tout juste avant son retour en Belgique, où elle dirige le Centre de recherche en épidémiologie des désastres, un centre de référence de l'OMS qui est rattaché à l'Université catholique de Louvain. Elle va aller en Haïti, Madame Gouas-Sapir, non?
Vraiment pas dans l'immédiat, me disait-elle, parce qu'une des règles d'or de sa discipline, c'est toujours d'attendre quelques mois après un désastre de cette nature-là. Question de laisser toute la place au secours et à l'aide d'urgence.
On comprend bien. Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada, et vous suivez une heure spéciale entièrement consacrée au tremblement de terre en Haïti et à ses suites. Alors après les humains et leur santé, les édifices et leur santé précaire, cette santé, on l'a constaté avec les dégâts considérables causés aux maisons et même aux grands édifices comme le palais présidentiel, Sophie André, n'est-ce pas?
Oui, des châteaux de cartes qui s'écroulent, c'est ce qu'on a souvent imaginé en voyant ces maisons, le palais, la cathédrale même en ruine. Alors, outre les ingrédients de nature naturelle, géologique qui ont commandé la sévérité du séisme, il y a des ingrédients de nature technique et même réglementaire qui ont aggravé les dégâts. Tous les bâtiments ne sont pas également vulnérables au séisme. C'est d'ailleurs ce qu'étudie Suze Youans. Elle est étudiante à la maîtrise en génie de la construction à l'École de technologie supérieure à Montréal. Elle a consacré sa maîtrise à l'étude de la vulnérabilité sismique des églises de Montréal et son doctorat se vouait précisément à l'étude de la vulnérabilité sismique des édifices publics de Port-au-Prince.
Oui, donc elle vient de perdre son objet d'étude en quelque sorte, non?
Ah oui? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne demeure pas intéressant, important même, d'ausculter la réponse des bâtiments aux secousses sismiques pour qu'Haïti se dote enfin d'un cadre technique, d'un cadre réglementaire qui permette de reconstruire sur des bases plus solides. Et ça, littéralement. Alors, je suis allée rencontrer Suze Youans. Elle m'a fait faire une visite virtuelle des rues et des ruines de Port-au-Prince.
Donc ici, on a le Palais national. Ce côté-ci, le bâtiment avec le toit vert, c'est le Palais des ministères. Le Palais de justice, il paraît aussi qu'il est tombé, c'est ce bâtiment-là.
Oui, d'accord.
L'hôpital général est par ici. Ici, on a Paco, on a Turjo, il y a aussi des photos sur Turjo.
Est-ce que ça, ce sont des quartiers ou des banlieues?
Ce sont des... En fait, toutes ces zones-là étaient un peu des banlieues de Port-au-Prince. Mais ce qui arrive maintenant, c'est qu'avec l'urbanisation, tout devient un tout.
Et ça s'est développé très rapidement.
Ça s'est développé très rapidement. Si vous regardez ici, on a la trame de l'ancienne ville où vraiment les rues sont quadrillées. Il y a un certain quadrillage régulier. Et puis, si on regarde un petit peu les banlieues où il y a eu justement le développement un peu anarchique, c'est plutôt anarchique et puis on ne se retrouve pas parce que ça fait comme un amas de bâtiments.
On le voit très bien quand on regarde les photos aériennes, effectivement, on n'est plus dans le quadrillé, on est dans un petit labyrinthe.
C'est ça, exactement, exactement.
Votre spécialité, c'est au niveau du génie et de la construction. Et votre intérêt, c'est la résistance au séisme de ce qu'on construit.
Oui, c'est ça. On sait que un séisme devrait arriver. On a eu des séismes qui ont détruit le Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. On a eu des séismes qui ont détruit Port-au-Prince en 1750 et 1771. Donc, on sait que ça devrait arriver. Scientifiquement, quand un séisme arrive, on sait qu'un séisme peut frapper à nouveau. Et on sait qu'il n'y a pas la réponse, on sait que la capacité du pays n'est pas adéquate pour répondre à des cas de séisme. En plus de ça, on a beaucoup parlé de la vulnérabilité sismique qui est liée à plusieurs paramètres, dont l'existence des failles et aussi la vulnérabilité liée à la dégradation de l'environnement urbain.
Et la dégradation de l'environnement urbain tient à deux facteurs. Il y a une dégradation de l'environnement, point, peu d'arbres et tout. Peu d'arbres disponibles, peu de bois aussi. Des constructions, donc, dans des matériaux qui sont peut-être moins résistants.
Oui, oui et non. En fait, on devrait faire un peu un retour sur ce qu'on a appris des séismes précédents. C'est que si on regarde l'ancienne ville de Port-au-Prince et pratiquement la partie quadrillée où je vous avais montré, les anciens bâtiments sont des bâtiments de deux niveaux. Et au niveau des premières extensions du centre-ville de Port-au-Prince, on retrouve ce qu'on appelle les gingerbread, qui sont des structures légères en bois. Ce sont des caractéristiques, ce sont des recommandations qui avaient été émises à un certain moment pour justement tenir compte du fait de la vulnérabilité sismique du bâti et de Port-au-Prince. Donc la recommandation était de construire léger et de construire à une certaine hauteur. On a beaucoup parlé, par exemple, des symboles du Palais national et, par exemple, du Palais des ministères, qui sont des bâtiments solides, si on veut, qui ont été construits sous l'occupation américaine et après 1915. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a oublié que la zone est fragile.
Donc, comme le palais est un bâtiment solide, vous l'avez dit, mais peu résistant à une secousse comme celle qui s'est passée, par rapport aux bâtis légers qu'on a fait après les recommandations, est-ce qu'ils ont mieux résisté?
Non. Oui, dans certains cas, oui. Mais ce qui arrive aussi, c'est que c'est quand même des bâtiments, on parle de 1915, donc des bâtiments qui sont construits avant l'application des codes, même ici au Canada ou ailleurs. Et justement, on se dit que le palais était une construction solide, et c'est ce que j'allais analyser justement dans mes documents. Donc, est-ce que c'était vraiment une structure solide? Dans quelle mesure elle pouvait résister à un séisme d'une certaine magnitude? C'est tout ça que j'allais analyser. Je me suis dit que mes bâtiments d'études sont partis, mais les aspects qu'on allait analyser, c'est qu'il n'y a pas de code de construction en Haïti à proprement parler. On utilise beaucoup le code des Français, les méthodes françaises pour le calcul de certaines structures. Par exemple, quand on calcule les ponts, on va beaucoup plus utiliser des codes américains. Ça dépend de la formation du professeur et de la démarche qu'on a pu suivre lors de nos études. Dans certains cas, par exemple, si on construit, si c'est un projet financé par un pays, donc généralement ce pays-là va demander l'application de ses propres normes. Donc on a un petit peu une utilisation hétéroclite de différents codes, mais si on veut aussi, c'est que tout ce qui est lié au génie parasismique, c'est quand même très peu connu en Haïti. On a certains bâtiments quand même qui ont été construits selon des normes parasismiques et je sais qu'ils ont bien résisté. Il y a le nouveau local de la Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti, qui est au centre-ville. Sur les photos, justement, on voit que la structure a résisté. On n'est pas sur le terrain, donc on ne peut pas savoir dans les détails comment ça a résisté.
Mais ce serait intéressant pour vous d'aller voir.
C'est ça. Donc, justement, même si malheureusement le séisme est arrivé, mais on apprend beaucoup à partir des constats.
De quoi en général sont faits les bâtiments à Port-au-Prince et qu'est-ce qui résiste mieux, qu'est-ce qui est mieux adapté pour l'instant, en tout cas avant que vous finissiez vos travaux, à des séismes?
En fait, là, je m'aventure un petit peu, mais par rapport aux photos. On a eu des photos, par exemple, de Jacmel. Jacmel, c'est une ville, les bâtiments, il y a beaucoup de structures préfabriquées en acier. Elles sont plus ou moins bien tenues. Il y a de petites structures aussi en bois qui ont bien tenu. Et on voit, par exemple, l'ajout d'une partie en maçonnerie de pierre ou de blocs de béton. Et c'est cette partie-là qui est tombée. Les structures principales qui ont été endommagées, ce sont les structures en béton. Des bâtiments qui se sont carrément aplatis. Le palais national est construit en grande partie en béton. Ce qui est intéressant, par exemple, sur la rue du centre, on a vu plein de bâtiments qui ont été démolis et il y a une église qui a tenu. Et cette église, en fait, c'est une église préfabriquée qui est une structure métallique. Il y a certains éléments de béton qu'on avait mis en place justement pour la mise en place de cette structure et cette église a tenu.
Beaucoup des bâtiments sont tombés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répare ce qui n'est pas tombé? Est-ce qu'on change la façon de construire pour ce qu'on devra reconstruire?
Et moi, en fait, j'ai eu l'expérience des inondations au Gonaïves en 2004. Dans ce cas-ci, c'était la vulnérabilité liée aux inondations. On n'avait pas pu, justement, coordonner une intervention durable.
Donc, occupé par l'urgence, on n'est pas allé jusqu'au cœur du problème.
Occupé par l'urgence, on n'a pas été au cœur du problème.
Pour l'instant, on est encore dans la gestion
oui,
de l'urgence.
Donc, ce serait le moment après, naturellement, après les urgences. Je pense que la deuxième vague d'intervention doit toucher de manière plus systématique les problèmes en profondeur. Et c'est le moment, par exemple, de travailler sur des codes de construction. Je pense que la connaissance est là et je pense que la volonté aussi. Ce serait intéressant, par exemple, de travailler sur les modes de rupture qu'on a observés sur les bâtiments et attribuer un mode de rupture à une typologie de bâtiment, à une façon de construire. Et à ce moment-ci, on pourra mettre à jour, en fait, non, là, c'est vraiment établir des normes et qui sont adaptées à Haïti.
Beaucoup de travail pour vous.
J'espère bien. Mais il y a beaucoup à faire. Je suis un petit peu encore sur le choc de toute cette catastrophe-là, mais je pense que c'est le moment de le faire. Et un des apports qui serait les plus intéressants que pourrait faire la coopération internationale, ce serait vraiment de mettre à disposition du pays les connaissances dans le domaine du génie parasismique et du génie en général.
Tout un programme, effectivement. Prévu par Suze Youance, qui est étudiante en génie de la construction à l'École de technologie supérieure, une école qui est à Montréal, et Suze Youance, donc, qui effectivement aura du travail à faire autour chez elle. Alors, avant les pics, avant les pelles, avant les grues pour reconstruire, ça serait prudent de sortir le crayon, si je comprends bien, pour élaborer un code du bâtiment qui soit adapté à la réalité d'Haïti. C'est ce que vient de dire Suze Youance.
Oui, et André Filiatro est d'accord avec Mme Youance et avec vous, Yannick. Oui. Il est directeur d'un laboratoire de simulation sismique de la New York State University, c'est à Buffalo. Il nous rappelle les problèmes, puis ensuite il propose certaines solutions technologiques qui sont mises de l'avant.
Le fait, évidemment, qu'il n'y a pas vraiment de code de bâtiment en Haïti qui est vraiment là, appliqué. N'importe qui veut faire à peu près ce qu'il veut, là. Donc, il n'y a absolument aucun vraiment de considération parasismique dans ces bâtiments-là. Aussi, évidemment, bon, avec les problèmes politiques qui s'est passé, la pauvreté, tout ça, dans la ville de Port-au-Prince, c'est une construction un peu à bric-à-brac. Donc, ça a contribué, évidemment, à ce qu'on appelle les ruptures par pancake en anglais. Je peux utiliser le mot où est-ce qu'il y a une rupture complète de tous les planchers, ce qui maximise beaucoup là, les fatalités, le nombre de personnes qui ont perdu leur vie.
Pouvez-vous nous décrire un peu ce type de rupture pancake ou crêpe en français? Je sais pas.
Ouais, ce serait une rupture par crêpe, si je peux utiliser le mot. Ben, en fait, disons, si vous imaginez des murs de maçonnerie, des murs de briques, par exemple, qui forme le système pour résister aux charges verticales, le poids du bâtiment. Le poids dans un bâtiment revient surtout au niveau des planchers, au niveau du toit. Hein, on doit supporter évidemment ce poids-là. Mais ces murs-là, ils sont soumis à des vibrations à la base, ils sont soumis à des charges latérales. Donc, le bâtiment veut se déplacer latéralement. Et un mur comme ça, ben si on le regarde, par exemple, un mur qui est dans la direction de la force, c'est-à-dire dans le plan. S'il n'y a pas vraiment de barre d'armature dans le mur, il va développer des fissures dans le mortier en diagonale très rapidement. Et du moment qu'une fissure diagonale est formée, ben le mur ne peut plus rien résister. Il glisse, si on veut, sur cette fissure-là, évidemment, va s'effondrer. Si, par exemple, on a un mur perpendiculaire, à la charge. Vous pouvez imaginer un mur qui va commencer à bomber. Mais encore une fois, c'est impossible, c'est très difficile dans le joint de mortier de maintenir cette déformation-là. C'est comme si j'arrivais avec un coup de poing et je donnais un coup de poing en plein centre d'un mur. Donc, vous imaginez qu'il va avoir quelques briques qui vont s'effondrer, mais à un moment donné, le trou va s'agrandir. Éventuellement, bien, le mur perd sa capacité de reprendre la charge de gravité, le plancher qui est au-dessus. Alors, le phénomène de crêpe, si on veut, bien, quand le mur s'effondre, bien, le plancher ne peut plus être supporté, il tombe. Il va tomber sur le plancher d'en dessous, qui va continuer à former une rupture progressive jusqu'à ce que le bâtiment puisse s'effondrer, dépendant de la hauteur du bâtiment, le nombre d'étages. Malheureusement, c'est très tragique.
Dans votre laboratoire, on cherche à améliorer la résistance des bâtiments aux secousses sismiques. On parle de construction parasismique. Est-ce qu'on trouve des matériaux, des façons de construire qui soient efficaces pour résister à des secousses sismiques, d'une part? Et est-ce qu'on réussit à en trouver à des coûts qui soient abordables pour les pays en développement?
Oui, absolument. Comme par exemple, notre laboratoire ou notre centre de recherche s'est concentré depuis plus de 20 ans au développement ce qu'on appelle des technologies innovatives. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, quand vous avez sur votre voiture, vous avez des amortisseurs. Si vous n'aviez pas d'amortisseurs, ça serait très difficile de conduire. Hein. Vous absorberez tous les chocs du pavement ou de la route. Alors, c'est la même idée. Si on a un bâtiment qui, lui, va vibrer latéralement, au lieu de laisser le bâtiment absorber les secousses, on installe, par exemple, des amortisseurs qui sont très semblables à ce que vous allez avoir sur votre voiture, seulement ils sont installés en diagonale, c'est-à-dire, par exemple, d'un coin en bas à gauche d'un plancher jusqu'au en haut à droite du plancher. Ça fait un diagonale. Donc, quand le bâtiment veut vibrer latéralement, ces amortisseurs-là vont agir de la même façon que ceux dans votre voiture, vont absorber le choc et diminuer l'amplitude des vibrations. Donc ça, c'est une méthode innovative qui, il y a 20 ans, était considérée farfelue, mais notre centre de recherche à l'aide de compagnies privées dans le coin, etc., on a développé des systèmes qui maintenant sont installés un peu partout dans le monde de façon standard.
Et c'est installé sur des bâtiments existants?
Ça peut être installé soit sur des bâtiments existants en termes de réhabilitation ou ça pourrait être simplement pour des nouveaux bâtiments aussi. Un autre exemple, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'isolation à la base. Alors, si vous avez, par exemple, un bâtiment qui est ancré au niveau du sol, mais quand le sol vibre, vous pouvez imaginer, ça fait comme un fouet, hein? Le bâtiment va vibrer comme un fouet. Alors, au lieu de faire ça, on a contribué ici au centre au développement, par exemple, d'un ce qu'on appelle des systèmes d'isolation à la base. Alors, ce que ça représente, c'est au lieu de d'installer le bâtiment et de l'ancrer dans sa fondation, on installe une couche flexible entre la fondation du bâtiment et son premier étage. Ça peut être sous forme, par exemple, de joints de caoutchouc ou de systèmes à glissement, de telle sorte que quand le sol vibre, bien, le sol, si on veut, est isolé du bâtiment lui-même. Donc, imaginez-vous, le bâtiment, lui, reste droit, alors que le sol vibre et toute la déformation est absorbée par ces isolateurs, parce qu'ils sont très flexibles. Et ces systèmes-là ne sont pas nécessairement plus dispendieux que des systèmes normaux. Et ça permet d'augmenter de beaucoup la performance des bâtiments. Alors, c'est pour ça, par exemple, si on prend, par exemple, le dernier grand tremblement de terre en Californie, en 1994, où déjà il y avait plusieurs de ces systèmes-là d'installés, etc., bien, c'était une magnitude 6.8 en 94, pas très loin de ce qu'on a vu à Haïti, mais on parle peut-être d'une soixantaine de personnes qui ont perdu la vie, comparé possiblement, là, je ne sais pas, là, mais on est rendu à 100 000, peut-être plus, là, qui vont avoir perdu leur vie lors de ce séisme-là. Donc, c'est sûrement, la technologie existe, il s'agit de bien l'appliquer et surtout d'avoir le pouvoir politique d'assurer que les codes de bâtiment, les normes de construction sont respectées. Je prends par exemple le Mexique en 1985, ben, les codes de normes bâtiments ont été soulevés, élevés, et après le tremblement de terre de 85, il y a eu l'installation de systèmes innovateurs, plusieurs centres de recherche se sont formés. Donc on l'espère peut-être, si le développement économique du pays peut reprendre après le séisme, on espère que il va y avoir du bon. Mais définitivement, c'est un cas là, très, très, où tous les ingrédients qui peuvent causer un scénario là, de cauchemar se sont produits, malheureusement, dans ce qu'on a vu il y a quelques jours en Haïti.
Oui, tous les ingrédients du cauchemar, effectivement. C'est André Filiatro qui est directeur du Centre multidisciplinaire de génie parasismique à Buffalo, la New York State University, Sophie André.
Oui, ce sont les ingrédients d'un cauchemar, du désastre. Il faut maintenant s'assurer de récolter les ingrédients d'une reconstruction, mais d'une reconstruction durable.
Merci beaucoup, Sophie André.
Vous écoutez Les Années Lumière, le magazine scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Si vous avez des questions de science et de technologie à nous poser, à nous et à nos experts, nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans des éditions ultérieures de notre magazine. Pour nous joindre, vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire. Le téléphone de la région de Montréal, c'est le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, sans frais, c'est le 1-800-752-9050. Et puis l'adresse courriel, lumière@radio-canada.ca. Alors, chaque fois que survient un tremblement de terre aussi dévastateur, une grande question, toujours la même, refait surface. Aurait-on pu faire mieux pour prévoir le séisme et mettre la population à l'abri? Et chaque fois, la réponse est la même. On ne peut pas, à court terme, prévoir les tremblements de terre, Chantal.
Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, oui. Yannick. Observation des micro-séismes, détection du radon ou des ondes électromagnétiques dans le sol, observation même du comportement animaux, et j'en passe. Malgré toutes leurs tentatives, les scientifiques sont pour le moment impuissants. Ils peuvent certes nous dire qu'un jour, un séisme va survenir, avoir une bonne idée de sa magnitude, mais ils ne sont pas capables de nous dire quand, ce qui est un sérieux problème quand on veut faire de la prévision. Tout ce qu'on sait faire pour le moment, c'est de la surveillance pour donner l'alerte le plus vite possible lorsqu'il y a vraiment un séisme qui est en train de se produire. Pour en savoir davantage, je me suis adressée à une experte en la matière. Elle s'appelle Barbara Romanovitch. Elle dirige, imaginez, le laboratoire de sismologie de l'Université de Berkeley, en Californie.
Oui.
Une zone à risque, s'il en est une. Même l'importante faille de Hayward traverse le campus de son université, imaginez. Alors, de son labo, Barbara Romanovitch collabore à un vaste réseau de surveillance de l'activité sismique dans la région. Je la laisse vous expliquer plus en détail.
Nous avons donc ce réseau de stations dans toute la région qui nous transmettent des données de manière continue et en temps réel. Et nous avons des ordinateurs sur place qui traitent ces données aussi en continu et de manière automatique pour déterminer très rapidement s'il y a un séisme et où il a lieu. Nous savons produire, disons, les informations sur la magnitude et la localisation du séisme et le champ fort, où il y a le plus de possibilités de dégâts. Ça, on sait le faire en, disons, en moins d'une minute après le début du séisme. Donc, c'est assez performant. Mais on veut faire encore mieux, c'est-à-dire on veut pouvoir donner une alerte, alerter les gens avant qu'ils ne ressentent les vibrations. Et pour ça, nous développons des techniques qui sont en ce moment en test, c'est-à-dire elles ne sont pas, disons, implémentées dans notre système automatique. On les fait tourner en background pour voir leur performance et où on peut alerter au bout de quelques secondes. Et là, ça dépend donc la distance à laquelle on se trouve de l'épicentre. Mais c'est une méthode sur laquelle on travaille en ce moment avec le métro de la région de San Francisco, le BART, qui est en train de prendre nos informations et voir s'ils peuvent les utiliser rapidement et de manière automatique pour freiner les trains ou les arrêter.
Parce que ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus rapidement possible en cas de tremblement de terre.
Oui, parce que plus on va vite et plus on a de chances d'avoir un impact, si vous voulez. Donc, il y a ce genre de systèmes qui doivent être très automatisés, mais aussi très fiables, parce que on ne peut, s'il y a des fausses alertes, si vous voulez, au bout d'un certain temps, les gens se lassent.
Oui.
Et c'est ça le problème principal, c'est qu'on est capable de développer des systèmes assez performants, mais on a quand même, il faut éliminer les fausses alertes.
Alors, votre système, je soupçonne, met à contribution des technologies pour faire la détection et par la suite l'analyse et la communication très, très rapidement.
Voilà, tout à fait.
Quel genre de technologie?
C'est, si vous voulez, ce sont des technologies qui sont basées sur nos connaissances des signaux sismiques. Donc, l'analyse de la première onde qui émane d'un tremblement de terre qui est l'onde P, qui arrive très vite, mais qui, en général, ce n'est pas elle qui cause les dégâts. Ensuite, il y a une seconde onde qui s'appelle l'onde S. C'est une onde de cisaillement qui est auxquelles les bâtiments sont beaucoup plus vulnérables parce qu'elle induit un mouvement horizontal. Or, les bâtiments sont construits pour résister à la gravité, donc qui est une force verticale, mais ils sont beaucoup plus vulnérables pour les mouvements horizontaux. Enfin, ils résistent au vent, mais ce n'est pas suffisant en cas de séisme. Et donc, cette onde S, elle se propage beaucoup plus lentement que l'onde P. Et donc, si on peut détecter l'onde P, l'analyser pour estimer la magnitude très rapidement, c'est ça le challenge, on peut envoyer une alerte avant que l'onde S n'arrive à l'endroit où sont les gens.
Et donc, vous travaillez là-dessus dans votre laboratoire de sismologie, oui. On a réussi à faire ça ailleurs dans le monde ou partout
où
on travaille?
C'est-à-dire, il y a des méthodes développées. C'est surtout au Japon, il y a un système d'alerte qui est transmis par la télévision et aussi pour les réseaux ferroviaires, pour arrêter les trains, qui est déjà en place depuis très longtemps.
Barbara Romanovic dirige le laboratoire de sismologie de l'Université de Berkeley en Californie, où on développe des systèmes d'alerte précoce au tremblement de terre.
Et je lui ai parlé, Yannick, plus spécifiquement du cas d'Haïti. Elle me disait que l'épicentre était tellement proche des zones habitées qu'il n'est pas évident que ce genre de système d'alerte aurait pu être efficace, les ondes P et S auxquelles elle faisait référence, n'ayant pas le temps de se séparer.
Mm-hmm. Alors, cela dit, avec Barbara Romanovic, Chantal, vous avez parlé de surveillance, d'alerte, mais pas vraiment de prédiction, c'est autre chose.
Oui, le problème, c'est que les scientifiques n'ont pas encore identifié de signes précurseurs fiables qui nous permettraient de savoir qu'un séisme arrive et de dire à quel moment. Mm-hmm. Certains cherchent ces signes sous la Terre ou sur la Terre, tandis que d'autres se tournent vers le ciel, bien loin au-dessus de nos têtes. C'est le cas de Michel Parot du Laboratoire de physique et de chimie de l'environnement de l'espace au CNRS à Orléans, en France. Michel Parot est le chercheur principal de la mission Déméter, un microsatellite lancé par le CNES, le Centre national d'études spatiales en France, en 2004. Déméter, c'est pour Detection of Electromagnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions. Michel Parot explique tout d'abord en quoi consiste cette mission.
Le but principal du microsatellite Déméter, parce que c'est un microsatellite, il ne fait que 130 kg, c'est d'étudier les perturbations qu'il y a dans l'ionosphère, c'est-à-dire à environ 600 km d'altitude, les perturbations qui sont en relation avec l'activité sismique.
Et est-ce qu'on sait donc dans quelle mesure il y a vraiment un lien entre ces perturbations et la survenue de tremblements de terre?
Alors, il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. Une des hypothèses les plus répandues, c'est qu'au niveau du séisme, au niveau de l'épicentre, quand il y a une compression de roche, il y a une émission d'ondes électromagnétiques. Et ces ondes peuvent se propager dans l'atmosphère et dans l'ionosphère. Et ça a été vérifié, si vous voulez, expérimentalement, dans des laboratoires. Il y a des gens qui ont pris des gros blocs de roche, qui les ont comprimés et qui ont observé des émissions d'ondes électromagnétiques.
Et au cours des 5 dernières années, vous avez pu observer indirectement ainsi ce qui se passait au niveau de l'ionosphère durant combien de séismes, M. Parot?
Alors, on a fait des études statistiques sur plus de 3000 tremblements de terre et on s'est aperçu, si vous voulez, que quelques heures, on montre ça du point de vue statistique, que quelques heures avant les séismes, on a une diminution du champ électrique au niveau de l'ionosphère. Mais on observe ça que la nuit, parce que pendant la journée, l'ionosphère est trop contrôlée par le soleil. C'est-à-dire qu'on a une couche de densité qui est beaucoup trop importante pour qu'on observe quelque chose à l'altitude du satellite.
Vous parlez, M. Parot, de relations dites statistiques. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'on est bien loin de pouvoir utiliser ces données pour donner l'alerte.
Bien sûr, pour le moment, si vous voulez, ces résultats sont obtenus d'une façon statistique, c'est-à-dire que on peut pas revenir, si vous voulez, à un tremblement de terre donné et dire que pour tous les tremblements de terre, par exemple, on va avoir quelque chose qui va se passer quelques heures avant. Pour un séisme donné, par exemple, ça va être une perturbation qui va pouvoir se produire quelques jours avant, mais on ne sait pas si c'est un jour ou deux jours ou trois jours avant. C'est pour ça que c'est très difficile de faire de la prévision.
Dans le cas d'Haïti et du récent séisme, est-ce que vous avez d'ores et déjà des données qui vous disent ce qui a pu se passer dans les heures, dans les jours qui ont précédé au niveau de l'ionosphère?
Alors, bien sûr, quand il y a des sismes très importants comme ça, surtout d'une magnitude très forte, on regarde tout de suite nos données et on a vu deux perturbations concernant le séisme d'Haïti, hein, mais c'est pareil, donc on ne peut pas en déduire pour le moment de la prévision. On regarde simplement une modification de paramètres. Donc, on a vu une modification de paramètres quelques heures avant le séisme et aussi trois jours avant le 9. On a vu quand on passait au-dessus du futur épicentre, on a vu un changement de la densité électronique, mais toujours de nuit. Hein.
Qu'est-ce qui nous empêche, compte tenu de données comme celle-là, M. Parot, d'utiliser ces données et la probabilité qu'il y ait un séisme qui est lié pour donner une alerte? Pourquoi on ne le fait pas si on voit d'ores et déjà des choses avant que des séismes surviennent?
Parce que, si vous voulez, pour un séisme particulier, hein, on ne peut pas dire si la perturbation que l'on voit, c'est une perturbation qui va être bien due à ce séisme-là ou si c'est une perturbation qui va être due à autre chose qui se passe dans l'ionosphère. Parce que l'ionosphère est perturbée aussi de différentes manières. Si vous voyez, il y a des perturbations qui viennent de la Terre, qui viennent au-dessus aussi de l'espace, et on ne peut pas affirmer, si vous voulez, que telle perturbation que l'on voit peut être attribuée exactement à un séisme qui va se produire. Le but de notre étude finale, ça va être d'essayer de trouver, si vous voulez, parmi toutes les perturbations que l'on voit, quelles sont celles qu'on peut attribuer formellement à un séisme.
Très intéressant. Le physicien Michel Parot, chercheur principal de la mission Déméter, c'est un satellite, un chantal, si j'ai bien compris, qui étudie les émissions électromagnétiques des tremblements de terre.
Dans l'ionosphère, 600 oui. km au-dessus de nos têtes et qui va poursuivre ses observations tout au long de l'année. Il me disait, il faut dire qu'on est loin d'un système de prévention. Pour le moment, ce qu'il fait, littéralement, c'est qu'il regarde dans le rétroviseur pour savoir ce qui s'est passé au moment d'un séisme.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, Daniel Nopp pour le scientifique de l'année de Radio-Canada et Mathieu Dumontier, journaliste Sophie-André Blondin et Chantal Srivastava au site internet Louis-André Bertrand, c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de Radio-Canada qui va continuer bien sûr à vous informer sur tout ce qui se passe en Haïti. Et puis nous, de notre côté, on vous revient la semaine prochaine, même poste, même heure, pour une autre édition des Années-Lumière. J'ai quelques secondes pour vous rappeler nos numéros de téléphone. Pour nous joindre, de la région de Montréal, c'est le 514-597-7166. Et d'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. Notre courriel, lumière@radiocanada.ca. Au revoir.